Bonjour.
Marcher la nuit, c'est quelque chose que vous avez découvert lors de votre école de recrues. Si pour certains, les marches, notamment nocturnes à l'armée, c'était le calvaire, pour vous, ça a été une découverte réjouissante.
Oui, c'était une découverte inattendue. Mais j'avais eu la chance de pouvoir être placé en tête de bataillon comme explorateur. Et donc, j'ai pu vivre cette expérience sur plusieurs nuits successives dans un isolement quasiment total.
Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces premières expériences? Qu'est-ce que la nuit vous a permis de découvrir et de commencer à explorer à ce moment-là?
C'est un phénomène qui est lié au fait que le cerveau est privé de ses informations visuelles. On connaît tous ce phénomène. Si on doit se concentrer, par exemple, sur un goût, sur un son, sur une saveur, on ferme les yeux spontanément. Une étude a été faite qui montre que quand les amoureux s'embrassent sur la bouche, ils ferment tous les yeux. C'est pour se concentrer sur la sensation elle-même. Donc, ce qui se passe quand on marche dans la nuit sans l'aide d'une lampe frontale, donc dans l'obscurité, on prive le cerveau de la plus grande partie des informations dont il dispose habituellement. Et donc, le cerveau va permuter sur les autres sens qui sont à notre disposition, donc le toucher, le goût, les saveurs et bien sûr les sons.
Et vous êtes donc devenu adepte des randonnées nocturnes. C'est évidemment parce que vous avez réalisé que ces randonnées nocturnes éveillaient vos autres sens, ou c'est parce que vous vouliez absolument que vos autres sens soient éveillés que vous avez commencé la randonnée nocturne?
C'est
vraiment oui. Non, c'est une découverte fortuite faite grâce au service militaire, et ensuite ça a été un souvenir tellement marquant, quelque chose qui m'avait tellement plu que je l'ai répété moi-même, en général seul, parfois avec un ami. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là.
Et le fait de ne pas profiter du paysage avec nos yeux, ça fait qu'en fait, on en profite avec nos autres sens, en fait.
Exactement. Au lieu de profiter du paysage visuellement, on en profite avec tout le reste de notre équipement sensoriel.
Donc ça permet d'aiguiser les sens et de retrouver des sensations qu'on avait peut-être oubliées ou qu'on n'avait jamais connues, finalement.
Peut-être pas jamais connues, mais disons que on accorde une relativement faible importance à la plupart des autres sens. Les sons, évidemment, restent très importants, c'est en seconde position, mais le sens de l'équilibre, du toucher, les odeurs, c'est des sens qui finalement prennent dans notre vie quotidienne qu'une place assez restreinte.
Est-ce qu'on emporte le même matériel quand on marche la nuit que la journée?
Non, bien sûr, il faut être équipé pour assurer sa sécurité. Marcher la nuit, c'est pas quelque chose d'anodin. Il faut évidemment avoir plusieurs lampes avec soi au cas où. Le but, c'est de ne pas les utiliser, mais de les avoir sous la main en cas de problème. Il faut faire une reconnaissance préalable du parcours. Il faut le connaître, donc pour éviter de se perdre. Il faut avoir un téléphone portable s'il y a un problème pour pouvoir appeler des secours, etc. Donc ça, l'essentiel du livre est consacré aux aspects pratiques de la préparation de la marche de nuit, parce que le point fondamental à appliquer, c'est que il faut se sentir dans une parfaite sécurité. Il faut que la sécurité et le confort soient absolus pour pouvoir apprécier l'esprit ouvert, l'ouverture des sensations qui sont éprouvées durant cette marche.
Alors, on va revenir tout à l'heure sur les aspects pratiques, mais vous parliez des différents sens qu'on va utiliser d'une façon différente quand on marche la nuit. Le sens de l'équilibre, notamment. On marche physiquement différemment de jour que de nuit?
Oui, parce que la vision joue un rôle très important dans notre équilibre. Ça explique d'ailleurs le phénomène du vertige. Le vertige se produit quand les yeux ne peuvent plus se poser à quelques mètres de distance, comme on a l'habitude de le faire. Comme les yeux vont dans le vide, eh bien, ça donne des informations contradictoires au cerveau et ça nous fait perdre l'équilibre. C'est l'explication du vertige qu'on peut ressentir quand on est dans un endroit élevé. Donc, si vous privez le cerveau de la vision, ça modifie l'équilibre.
Alors, Stéphane Ansermet, dans ce livre, on l'a dit, vous donnez plein de conseils pour se lancer, de conseils pratiques, parce que la randonnée de nuit, ça peut être dangereux. Il y a des dangers objectifs, il y a aussi pas mal de dangers subjectifs. On se crée des peurs.
Oui, on se crée des peurs. C'est quelque chose que tout le monde connaît. L'imagination est toujours très féconde chez les êtres humains. Donc, il suffit de se trouver dans une situation inhabituelle, d'entendre des sons qu'on n'arrive pas à identifier pour lancer la machine à fabriquer des fantasmes effrayants.
Et j'imagine donc des bruits hein, qui font peur, ça je pense qu'il y en a pas mal, mais est-ce que vous avez déjà fait de vraies rencontres inattendues, là, dans la nuit, paf, devant vous, quelque chose qui apparaît ?
J'ai fait des rencontres inattendues, mais c'était des... Ça m'a fait peur, mais c'était des rencontres qui étaient tout à fait innocentes. Par exemple, je raconte l'histoire d'une nuit où je marchais en montagne, en Valais, et puis j'ai vu au bord du chemin une espèce de boule de la taille d'un ballon de basket qui m'a paru étrange. Alors je me suis approché de cette boule, et tout d'un coup, elle s'est détendue comme un ressort. En fait, c'était un lièvre qui était roulé... Qui était blotti au bord de la route et qui bougeait pas parce que son instinct et dès que je me suis trop approché il est parti. Je suis quasiment tombé par terre tellement j'ai eu peur.
Alors on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de préparation à avoir en amont, que ce soit pour l'équipement ou pour la reconnaissance du lieu. Est-ce qu'il y a une autre, il y a vraiment une grande préparation pour la randonnée de nuit? Qu'est-ce qu'on pourrait encore donner comme conseil?
Non, c'est pas une grande préparation, mais il y a certaines choses qu'il faut absolument faire. La reconnaissance préalable, c'est vraiment indispensable. Un des plus grands dangers, c'est quand même de se perdre. Et puis, il y a des obstacles qui peuvent devenir invisibles la nuit. Par exemple, des branches qui sont à la hauteur des yeux, ça c'est très dangereux. Des choses comme ça. Donc, choisir un itinéraire qui est vraiment pleinement sécurisé et pleinement connu, c'est la première condition pour faire une marche de nuit réussie.
Et puis vous le disiez tout à l'heure, ces marches vous les faites seules, éventuellement avec un ami. Le mieux pour vivre les expériences que vous décrivez, c'est de marcher seul, c'est vraiment de se confronter seul à la nature, à la nuit, à ses peurs.
Alors, je pense que ça dépend des personnalités. Pour moi, c'est sûr que c'est mieux d'y aller seul, mais selon le degré, la profondeur d'intimité ou d'entente ou d'amitié qu'on a avec d'autres personnes, je pense que ça peut être tout aussi enrichissant. C'est dur d'y aller seul tout de suite, donc de toute façon, il faut commencer par y aller avec une personne de confiance. Et puis ensuite, on peut s'enhardir si on a bien apprivoisé cette méthode à y aller tout seul. À chacun de choisir en fait la vitesse et la progression qui lui convient le mieux.
Et dans votre livre, il y a également des magnifiques illustrations avec vos propres photographies. Vous donnez aussi des petits conseils pour réussir des photos nocturnes. C'est pas si facile hein, de prendre des photos dans la nuit.
Disons que quand on était encore à l'époque de la photo argentique, c'était vraiment très très difficile. Mais avec la photo numérique, on a fait un bond incroyable, exceptionnel. Ça reste pas facile, mais c'est beaucoup beaucoup plus facile qu'avant. Alors je donne tous les conseils de base pour réussir de belles photographies de nuit.
Puis aujourd'hui, la lumière, elle est omniprésente. Il y a vraiment des lampadaires partout. On parle d'ailleurs de pollution lumineuse. C'est encore possible de se retrouver dans la nuit noire, quelque part, aujourd'hui?
Oui, ça devient... En Suisse, on a la chance quand même d'avoir les Alpes avec quelques vallées encore très sombres. Il y a aussi toute la chaîne jurassienne avec les montagnes, les hauts pâturages. Si on regarde une vision satellite, une photo satellite de l'Europe et de la Suisse en particulier la nuit, on voit que à part les zones très lumineuses du plateau, ça part du lac Léman et ça va jusqu'au lac de Constance en passant par Zurich, on a deux zones encore très sombres, le Jura et les Alpes. Donc oui, c'est possible.
C'est beau, une ville la nuit, écrivait Richard Boringer. La nature la nuit, c'est encore plus beau.
C'est vraiment très très différent. La ville, c'est très très beau parce qu'il y a tout un jeu de lumière. On la voit différemment. Mais la ville, bon, il y a un certain danger quand même. Là, c'est des êtres humains. Se promener la nuit, ça peut être dangereux. Certainement beaucoup plus pour les femmes que pour les garçons. La nuit dans la nature est à la fois plus effrayante parce que elle est plus inconnue pour l'être humain ordinaire citadin, mais en même temps elle est beaucoup beaucoup moins dangereuse et à mon avis elle est beaucoup plus belle.
Plus de dangers subjectifs la nuit dans la nature.
Oui, plus de dangers subjectifs. Notre imagination n'a pas de limite.
Stéphane Ansermet, on vous remercie beaucoup d'avoir passé ces quelques instants avec nous ce matin. Oser la nuit, marcher dans l'obscurité pour réveiller nos sens oubliés. C'est donc le titre de ce livre paru aux éditions Favre. On mettra tous les détails tout à l'heure sur la page de Format 3. On vous souhaite une belle journée et de belles randonnées nocturnes. À bientôt.
Merci beaucoup.